Le tabac, le travail mortel des enfants. Un podcast HEC Alumni du club Économie sociale et solidaire, avec le soutien du club Transition. Quel est l'impact social du marché des cigarettes ? L'industrie du tabac, n'ayant pas peur des mots et des chiffres, c'est le travail des enfants, de millions d'enfants. Les estimations les plus basses évoquent pas moins de 1,3 million d'enfants, chiffre que de nombreuses organisations n'hésitent pas à multiplier, puisque l'industrie du tabac fait travailler plus de 60 millions de personnes, tant dans les plantations que dans les fabriques de tabac, et que 57% des enfants dans les zones de production du tabac y travaillent. Et nous ne parlons pas ici d'adolescents, voire de jeunes adultes, mais bien de millions d'enfants de 5 à 14 ans, dont une écrasante majorité ont même entre 5 et 11 ans, l'équivalent de notre grande section de maternelle et de l'école primaire. À ce stade, vous vous dites peut-être, ce sont juste quelques millions parmi les 152 millions d'enfants qui travaillent chaque jour dans le monde, dont 73 millions effectuent des travaux dangereux. Donc pourquoi s'intéresser plus particulièrement à celles et ceux dans les champs de tabac ? Pourquoi ? Car elles y travaillent entre 50 et 60 heures par semaine et jusque 12 heures par jour. Pourquoi ? Car le travail des enfants dans ces champs y est des plus dangereux et fréquemment mortels, en contact avec les pesticides les plus agressifs du marché et sans protection. Pourquoi ? Car le tabac n'est pas une plante comme les autres. Elle est hautement toxique, voire mortelle, tant pour ceux qui la récoltent que ceux qui la consomment. Interviewé dans le cadre de nos recherches, Gérard Dubois, professeur émérite de santé publique, nous a rappelé un passage clé de son ouvrage « Le rideau de fumée, les méthodes secrètes de l'industrie du tabac » publié en 2003 aux éditions Le Seuil. Il y lève en effet le voile sur les pratiques de Big Tobacco, nom utilisé pour désigner les plus grandes entreprises mondiales de l'industrie du tabac, en expliquant que ces dernières ont vite compris que les pays pauvres sont intéressants pour la production, puisque les lois sociales y sont plus souples, voire inexistantes. De plus, les cigarettiers tiennent les petits fermiers par contrat. Concrètement, les fermiers s'engagent à n'utiliser que les semences, les fertilisants et les pesticides de la compagnie et à ne vendre leur récolte qu'à elles, écrit-il. Il souligne un peu plus loin que ce sont des contrats très déséquilibrés qui enferment les fermiers dans un système de dette croissante chaque année, remboursé avec leur récolte de tabac. Les familles de fermiers sont alors contraintes d'utiliser leurs propres enfants comme main-d'œuvre non rémunérée. En plus de devoir renoncer à tout avenir, privés de leur droit à l'éducation, ces enfants perdent souvent leurs parents, puisqu'on constate un niveau anormal de maladies et de suicides chez les fermiers du tabac au Brésil lors des périodes de pousse du tabac et d'exposition aux pesticides. Le professeur Dubois mentionne que certains rapports révèlent un taux de suicide supérieur à 7 fois la moyenne nationale dans les régions du tabac. Et que se passe-t-il 20 ans après la parution de ce livre majeur ? Donnons la parole au docteur Olivier Milleron, cardiologue à l'hôpital Bichat et ancien fumeur, qui vient de publier aux éditions textuelles l'ouvrage « Pourquoi fumer, c'est de droite ?» et découvrons avec lui ce monde invisible.
Ils ont été dans les premiers à aller dans des pays pauvres pour échapper aux normes environnementales et sociales. Et donc, quand on cultive du tabac, les gens qui cultivent du tabac sont très mal payés et très mal rémunérés. Quand on rémunère très mal des communautés pour faire de l'agriculture, bah, ça se traduit par du travail des enfants, parce qu'ils sont obligés de faire travailler leurs enfants pour gagner de l'argent. Et donc, les ONG qui ont travaillé là-dessus considèrent qu'il y a plus d'un million d'enfants qui travaillent dans les champs de tabac en France, dans le monde justement, et que c'est principalement dans des pays pauvres, mais aussi aux États-Unis, où on s'aperçoit qu'il y a des lois spéciales qui ont été poussées par les représentants élus des États où on produit du tabac. Et donc, on peut avoir des enfants aux États-Unis qui travaillent dans l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, enfin, le fait de cultiver du tabac pour les enfants est d'autant plus dangereuse parce qu'ils sont exposés à une pathologie particulière qui est le fait que quand ils sont en contact avec les feuilles de tabac, ils vont avoir un passage à travers la peau de nicotine et ils sont exposés à une intoxication aiguë par la nicotine qui va les mettre en danger et qui va créer des troubles digestifs qui va nécessiter, s'ils sont atteints par cette intoxication aiguë, d'avoir besoin d'être très hydratés très vite, comme des enfants qui ont des troubles digestifs. Et donc voilà, donc on s'aperçoit que l'industrie du tabac non seulement fait travailler des enfants, mais ce travail met en danger ces enfants, en dehors du fait qu'ils sont exposés à des tonnes de pesticides, il faut qu'ils montent dans les séchoirs très haut pour mettre les feuilles de tabac à sécher. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment une industrie qui est dangereuse.
Creusons les propos du docteur Milleron avec un courageux et très documenté article du CNCT, Comité national contre le tabagisme, sur l'empoisonnement au tabac de centaines de milliers d'enfants chaque année. Du fait de la nécessité de manipuler les feuilles avec soin pour ne pas les abîmer, la récolte se fait le plus souvent à la main. Or, comme l'a décrit le docteur Milleron, la feuille produit un insecticide naturel qui, absorbé par la peau, cause nausées, vertiges et vomissements. Cette maladie, appelée la maladie du tabac vert, est préoccupante. Elle peut être mortelle à court terme si l'enfant n'est pas réhydraté en urgence par une perfusion. Le problème est que l'on est bien loin d'une telle attention médicale, voire de conditions d'hygiène de base, puisque bon nombre d'employeurs ne fournissent ni eau potable, ni savon, ni même toilette à leurs petits travailleurs. Revenons sur la maladie du tabac vert. Pour vous donner un ordre d'idée, les enfants qui travaillent dans les plantations de tabac peuvent absorber jusqu'à 54 mg de nicotine par jour, soit l'équivalent de 2,5 paquets. 50 cigarettes. Concrètement, dès leur plus jeune âge, les enfants préparent les pépinières en retournant le sol et en abattant les arbres. Ils désherbent les champs, fertilisent les plants de tabac et pulvérisent des pesticides sans équipement de protection, souvent sous un soleil de plomb, et ce, pendant 12 heures d'affilée, avec un temps de travail hebdomadaire constaté de 50 à 60 heures. Vous avez bien entendu, ce sont des enfants qui pulvérisent les pesticides. Et ce ne sont pas les pesticides les plus inoffensifs qui sont utilisés, comme nous le rappelions dans un récent podcast pour le club Transition HEC Alumni. L'industrie du tabac utilise les plus toxiques et les plus dangereux produits accessibles sur le marché, souligne le Government Accountability Office des États-Unis, causant des intoxications aiguës, des cancers, des dommages au système nerveux et des malformations congénitales. Là encore, à la toxicité de ces produits s'ajoute le fait que la majorité des enfants ne reçoivent aucune formation sur la sécurité, la manière d'utiliser les équipements de protection, quand il y en a, ou comment minimiser leur exposition aux produits chimiques nocifs qu'ils manipulent. Nous avons voulu donner la parole au CNCT pour qu'il puisse s'adresser directement aux diplômés HEC Paris sur ce sujet majeur. Et Emmanuelle Béguineau, sa directrice, touche juste avec ces mots.
J'aimerais leur dire que ils ont une chance inouïe de pouvoir faire des études et que c'est important qu'ils pensent qu'il y a ces enfants-là qui sont exposés et qui mettent en danger leur santé et qui voient leur avenir complètement bouché du fait d'une exploitation complète par des fabricants de tabac qui va leur empêcher d'avoir accès à l'école, accès finalement à l'éducation dont que eux connaissent et qui peut transformer leur vie, quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment important qu'on soit fumeur, non fumeur, qu'on l'ait bien présent à l'esprit parce que pour nous, c'est un des scandales des actions de l'industrie du tabac qui demeure méconnue.
Revenons aux cigarettiers. Les Tobacco Papers, ces nombreux documents internes de l'industrie, fournis par plusieurs lanceurs d'alerte, ainsi que ceux découverts dans les procès contre Big Tobacco, révèlent de nombreux secrets bien cachés. On y apprend notamment qu'ils avaient conscience de l'enjeu vital du travail des 5-14 ans et se sont engagés dans les droits des enfants de 1997 à 2016 pour déjouer et neutraliser de nombreuses actions, décrit Olivier Milleron dans son ouvrage. L'Organisation internationale du travail a ainsi collaboré avec Japan Tobacco International de 2011 à 2015 pour, je cite, éliminer les pires formes de travail des enfants dans les communautés cultivant le tabac au Brésil, au Malawi et en Zambie. Concernant l'OIT, nous avons demandé à Emmanuel Béguinot si le travail international du CNCT avait porté ses fruits.
Par rapport à cette question de l'OIT, qui est une agence internationale qui n'est pas en plus des Nations Unies, donc il y a une mobilisation des agences internationales type OMS et la société civile pour faire en sorte que l'OIT arrête d'avoir ce type de lien avec les fabricants de tabac. Donc normalement, il n'y a plus de financement de l'OIT par les fabricants de tabac.
L'Académie américaine de pédiatrie écrit quant à elle, l'industrie du tabac a considéré les droits des enfants et l'UNICEF comme des menaces potentiellement dangereuses pour leur activité économique, qui devaient être étroitement surveillées et neutralisées. L'industrie de la cigarette s'est alors positionnée en tant que partenaire de l'UNICEF sur plusieurs initiatives afin d'éviter des mesures significatives de contrôle et de lutte visant à sauver la vie d'enfants. Évoquons par exemple le cas de la Fondation pour l'élimination du travail des enfants dans la culture du tabac, l'ECLT, basée en Suisse, qui se garde bien de mentionner sur son site internet qu'elle a été créée, est financée et est dirigée par des entreprises productrices de tabac. Le professeur Martinet, président du CNCT, ne mâche pas ses mots, comme nous l'a rappelé Madame Béguinot.
Nous, notre position, elle est très très claire. Hein. Si vous voulez, on considère que c'est vraiment, selon l'expression de Monsieur Martinet, c'est du blanchiment moral. Mais si vous voulez, ça fait partie d'une stratégie des cigarettiers qui sont vraiment engagés depuis ces dernières années dans une stratégie d'image importante pour contrer l'évolution de déclin des ventes des produits du tabac auxquels ils sont confrontés. Parce que si je ne sais pas si vous connaissez trop l'évolution hein, du marché du tabac, mais disons que à la suite justement de ce traité international de la convention cadre, il y a des mesures efficaces qui ont été adoptées dans beaucoup, beaucoup de pays, puisqu'en fait, ce traité a été ratifié par plus de 180 parties au monde. Donc, c'est énorme. C'est le traité qui remporte le plus grand succès dans l'histoire des traités. Et ce traité, il est juridiquement contraignant. Donc, ça veut dire que quand les pays ont ratifié, ils sont engagés dans les années qui suivent à adopter différentes mesures. Par exemple, sur l'interdiction de la publicité, sur le fait d'avoir des avertissements sanitaires, mettre en place des espaces sans tabac, augmenter la fiscalité, etc., etc. Et donc, on voit bien que, à la faveur de l'ensemble de ces dispositions, il y a une diminution des ventes, de la consommation, de la prévalence. Alors, du fait de l'évolution démographique, en nombre absolu, on a toujours peut-être plus de fumeurs dans le monde, mais il y a une diminution quand même très nette de la prévalence et des ventes des produits classiques, de produits du tabac. Et donc, face à ce déclin, hein, l'industrie du tabac, au cours de ces dernières années, a défini une stratégie de reconquête fondée sur la mise sur le marché de nouveaux produits qu'elle présente comme étant des produits moins dangereux, moins à risque, et associé à cette fameuse stratégie d'image dont je vous parlais, au travers d'actions d'entreprises socialement responsables, etc., etc. Donc, a priori, très investies sur le plan social, le plan environnemental, alors que par ailleurs, elles causent des dégâts majeurs. Enfin, mais Oui, c'est vraiment, on est dans cette approche d'image. Et donc, ça permet, si vous voulez, l'optique des fabricants, c'est de revenir au processus de décision dont ils ont été évincés et d'avoir finalement des dispositions favorables pour les nouveaux produits qu'ils mettent sur les marchés et pour lesquels ils ont des marges bénéficiaires majeures. Donc voilà, la Suisse a ce type de fondation. La Suisse, c'est un des rares pays au monde à pas avoir ratifié le traité de l'OMS et qui héberge quand même plusieurs, deux des plus grands groupes mondiaux de tabac. Donc c'est malheureusement pas étonnant, mais voilà, c'est important de décrypter ce qu'il y a derrière. Vous avez raison.
La communauté a son rôle à jouer, comme nous le propose Madame Béguineau au nom du CNCT.
Au niveau HEC, vous pouvez avoir une voix qui porte. C'est quand même une élite qui va être en responsabilité au cours des prochaines années. Donc je pense que cette question de l'intérêt général et en particulier de la question du coût du travail des enfants, parce que l'intérêt, je trouve qu'il est très emblématique finalement, ce travail des enfants, du fait que dans un certain nombre de cas, on a encore une fois des industries qui sont toxiques et c'est les plus faibles qui sont d'abord touchés. Et la question du travail de l'enfant l'illustre parfaitement. Mais ils peuvent être très efficaces dans leur engagement pour le travail des enfants par rapport à cette question circonscrite, mais d'une manière générale sur beaucoup d'autres sujets, dès lors qu'ils ont aussi cette lecture de, encore une fois, de ce qu'on appelle les déterminants commerciaux de la santé ou de l'intérêt public.
Laissons enfin la parole au docteur Olivier Milleron avant de conclure.
C'est vraiment une industrie qui est dangereuse, enfin une culture qui est dangereuse pour les enfants. L'industrie du tabac le sait. Elle a essayé de faire un peu de RSS, là, de faire croire qu'elle prenait les choses en main. Mais en fait, comme toujours, tous les gens qui ont travaillé avec l'industrie du tabac, au bout d'un moment, ont dénoncé les accords qu'ils avaient avec eux, parce que en fait, c'est que des paravents et il n'y a rien de concret qui se fait. En fait, en permanence, l'industrie du tabac, elle essaye de se faire reconnaître par les institutions internationales. Et comme ils sont très puissants économiquement, souvent, ils peuvent faire croire qu'ils ont la solution aux problèmes qu'eux-mêmes créent. Et donc, par exemple, il y a des pays où ils ont dit on va créer des écoles, on va fabriquer des écoles, soi-disant pour lutter contre le travail des enfants. Le travail des enfants, il vient uniquement du fait qu'ils ne payent pas assez leurs parents pour cultiver le tabac. Il faut qu'on rende non désirable la cigarette et que toute discussion, accointance avec l'industrie du tabac devienne socialement problématique.
Face à cet esclavagisme moderne, l'abolition du marché du tabac, chère à Robert Proctor, premier historien à témoigner contre l'industrie du tabac en 1999 et désormais enseignant à Stanford, devra passer par l'abolition du travail forcé des enfants, tout autant que la transition du travail de leurs parents vers des cultures de substitution économiquement viables, comme nous l'a rappelé le CNCT quand nous leur avons demandé si c'était bien réaliste tout ça.
Non seulement je pense que c'est réaliste, mais que la mesure qui est intégrée dans le traité de l'OMS, c'est une mesure qu'il faut absolument garder à l'esprit. Si vous voulez, l'objectif, et il y a déjà des pays qui sont fortement entrés dans ce processus, c'est la sortie du tabac des sociétés. Donc tous les pays n'en sont pas au même niveau en ce qui concerne la consommation des produits du tabac. Mais néanmoins, l'optique, c'est vraiment de sortir cette drogue des sociétés, donc à la fois au niveau de la demande, mais aussi au niveau de l'offre. Ça nécessite évidemment au niveau de l'offre d'avoir un accompagnement structurel par rapport à l'ensemble, ces millions de personnes qui travaillent dans les cultures du tabac, pour qu'elles passent à des cultures de substitution économiquement viables pour elles. Donc il y a pas mal de programmes déjà qui sont mis en place dans différents pays. Si vous échangez avec nos collègues en Afrique, par exemple, il y a des expériences au Kenya qui sont très intéressantes. Et l'idée, c'est justement que ces planteurs de tabac, donc pas seulement les enfants, hein, c'est également l'ensemble des adultes concernés et qui sont souvent liés aux fabricants de tabac dans des relations complexes de dépendance par rapport à des emprunts. C'est en tous les cas donner aussi un autre avenir à tous ces planteurs de tabac avec ces cultures de substitution économiquement viables.
Ces pratiques, cachées depuis des décennies, soulève bon nombre de questions, qui vont de la mécanisation de la récolte à la responsabilité de l'industrie phytosanitaire, en passant par le blanchiment moral de Big Tobacco, jusqu'à l'impact sur les ventes de cigarettes si les consommateurs savaient qu'elles étaient produites par des enfants de maternelle et de primaire. Mais, avec ces millions d'enfants dans les champs de tabac, intoxiqués, malades, une seule question nous paraît pertinente. La production et la consommation de cigarettes ont-elles leur place dans notre société si nous œuvrons pour le respect des droits des enfants ? Répondre lucidement, courageusement et concrètement à cette question serait peut-être le plus beau cadeau de Noël que nous puissions faire à nos enfants et à tous les enfants de la Terre, en arrêtant non pas seulement la cigarette, mais les cigarettiers. Je suis Greg Leroy et vous avez écouté un podcast du club Économie sociale et solidaire HEC Alumni avec le soutien du club Transition. Nous tenons à remercier pour leur collaboration à nos recherches le professeur Gérard Dubois, le docteur Olivier Milleron, l'historien Robert Proctor ainsi qu'Emmanuelle Béguineau, directrice du CNCT.